Eh bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20. Et nous allons lire à partir du verset 19 jusqu'à la fin de ce chapitre. Jean, chapitre 20, à partir du verset 19. Et les premiers versets vont reprendre le passage, le parallèle que Wayne a lu tout à l'heure en Luc, où le Seigneur apparaît aux disciples. Et nous lisons donc en Jean chapitre 20, à partir du verset 19, « Le soir de ce jour, et on est toujours dans le premier jour de la semaine, le jour de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, ce jour de victoire, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur dit « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi là ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Nous arrivons donc ce matin à la fin d'une série que nous avons appelée « Rencontre avec Jésus ». Et nous avons vu la rencontre, les rendez-vous de Jésus avec différentes personnes. Je ne vais en citer que quelques-unes. Nous avons vu le rendez-vous, la rencontre avec Nicodème, la rencontre avec la femme samaritaine, avec Zachée, avec le jeune homme riche, avec Pilate. Et nous avons vu que même sur la croix, alors que le Seigneur Jésus est en train d'accomplir cette œuvre de salut et d'offrir sa vie en sacrifice pour son peuple, il a rendez-vous avec le brigand, celui que J.C. Ryle a appelé le trophée du crucifié. Et le matin de sa résurrection, ce matin de victoire, ce matin de gloire, Jésus vient rencontrer Marie de Magdala. Il vient ensuite rencontrer les disciples sur la route d'Emmaüs. Et ces disciples, comme Wayne nous l'a rappelé tout à l'heure, sont rentrés à Jérusalem, ont raconté aux autres ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient entendu, ce qu'ils venaient de comprendre quand Jésus leur a parlé de tout ce que l'Ancien Testament avait annoncé. Et ce soir même, comme nous venons de le lire, il se présente aux disciples, mais Thomas n'est pas présent. Il va rencontrer Thomas 8 jours plus tard. C'est ce que nous voyons au verset 26. 8 jours plus tard, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. L'histoire de Thomas est importante et c'est ce que nous voulons voir ce matin. Donc le premier point, qui est Thomas? On parle souvent de lui comme étant le disciple qui doute. D'ailleurs, en anglais, on a cette expression « doubting Thomas », celui qui doute. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui le caractérise? C'est l'apôtre Jean qui nous en parle le plus. Il décrit Thomas comme un disciple, premier mot pour les enfants. C'est un disciple de Jésus. On le trouve en Jean chapitre 11, lorsque Jésus ressuscite Lazare. Et Jésus parle juste avant de ressusciter Lazare. Il dit, il parle à ses disciples, il leur décrit que Lazare est mort. Mais ensuite il leur dit, il leur parle du fait d'aller vers Lazare. Et sur quoi Thomas, nous lisons verset 16, Jean 11, verset 16, Thomas appelé Didyme, donc il s'agit du même Thomas, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. Allons aussi, afin de mourir avec lui. » On ne voit pas Thomas comme un disciple qui doute, mais plutôt un disciple ici qui se présente comme étant quelqu'un plein de dévotion, plein de courage. Allons avec lui, allons avec le maître, et même si ça veut dire mourir avec lui. On a un disciple qui est plein de courage, même si ce courage et cette dévotion pour le Seigneur Jésus-Christ sont mélangés avec une conception erronée, voire même une incompréhension. Je parle de conception erronée parce que dans ce même chapitre, dans les versets précédents, Jésus a parlé de certaines choses et Thomas n'a pas saisi l'assurance qui était impliquée dans ces versets. Dans les, toujours chapitre 11 et versets 9 et 10, Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Et Jésus s'étant présenté comme la lumière du monde, l'assurance qui découle de ces versets, c'est d'une part que tant que Jésus accomplit l'œuvre de son Père, il est en sécurité. Et tant que Jésus est avec eux, les disciples, eux sont en sécurité. Eux sont avec la lumière et sont appelés à accomplir l'œuvre qu'il leur est donnée, comme Jésus lui fait l'œuvre qui lui a été donnée. Jean 9, versets 4 et 5, « Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Pendant qu'il est là, ils n'ont aucune crainte, ils ne devraient avoir aucune crainte pendant qu'il est avec eux. Mais aussi une incompréhension, puisque quand Jésus parle de mourir, ce n'est pas n'importe quelle mort, c'est la mort de l'agneau de Dieu. Cette mort expiatoire et propitiatoire, c'est-à-dire cette mort qui allait traiter le problème du péché, mais aussi le problème de la colère de Dieu contre le péché, contre les pécheurs. Et c'est une mort unique. Les disciples ne pouvaient pas partager cette mort. C'est un sacrifice unique. Donc Thomas apparaît plutôt comme un disciple qui est dévoué, courageux, mais qui ne, deuxième mot, comprend pas. Il ne comprend pas. On le retrouve en Jean chapitre 14. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est avec ses disciples dans la chambre haute avant sa crucifixion et qu'il passe ce moment privilégié avec eux. Et il parle, à partir du verset 2, il dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et on retrouve Thomas, verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Et on trouve ici donc Thomas qui répond au Seigneur Jésus-Christ et en son nom, mais aussi au nom des autres disciples. Il révèle qu'ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas saisi ce dont quoi Jésus parle, du lieu où il va. Ils ne comprennent pas. Thomas ne va pas prétendre qu'il a saisi. Au contraire, non, il exprime haut et fort son incompréhension. Nous ne savons pas, nous ne comprenons pas. Et on le retrouve donc ici dans notre texte, Jean chapitre 20, et à partir du verset 26. Jean nous a précisé au verset 24 qu'il s'appelle Didyme. Ce mot veut dire jumeau. Apparemment, lorsque des jumeaux naissaient, on donnait un nom au premier et le deuxième, on l'appelait tout simplement Didyme, le jumeau du premier. Quel jumeau était-il? Quel était son jumeau? On ne sait pas et c'est pas important. Thomas ici, le disciple plein de courage et de dévotion, mais aussi d'incompréhension, a vu son maître être mis à mort sur la croix. Et il sait que son corps a été mis au tombeau. Et comme les autres, comme les disciples sur la route d'Emmaüs, par exemple, tout son univers s'est effondré. Troisième mot pour les enfants. Tout son univers s'est effondré, on pourrait dire, d'une certaine manière, qu'il ressemble à ceux dont Paul parle dans sa première lettre aux Corinthiens et au verset 19. « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Et Thomas était ainsi. Thomas, rappelez-vous, comme les autres disciples, sont juifs. Ils attendent un Messie. Ils attendent un Sauveur qui est annoncé dans l'Ancien Testament. Mais comment concilier l'idée d'un Messie crucifié? Un Sauveur triomphe. Il délivre. Il remporte la victoire. Comment est-ce qu'on peut parler d'un Sauveur dont le corps a été mis au tombeau? Si les disciples avaient compris quelque chose au sujet de ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit pendant qu'il était avec eux, au sujet de sa mort et de sa résurrection, on aurait lu un passage qui nous parlerait d'une fête qu'ils auraient organisée après la crucifixion, en disant, voilà, il est crucifié, mais il a dit qu'il allait ressusciter, et on attend ça avec impatience. Mais est-ce que c'est ce que nous voyons? Non. Nous voyons ses disciples perplexes, tristes. Les disciples sur la route d'Emmaüs, nous pensions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Et voilà, ça fait 3 jours. Ça fait 3 jours qu'il a été mis à mort. Quand Pierre et Jean sont allés au tombeau, on lit qu'ils sont ensuite rentrés chez eux. Et voilà, les autres, tous ces disciples, personne ne s'attendait à la résurrection, au quatrième mot pour les enfants. Ils sont abattus, ils sont même maintenant tristes. On les retrouve dans cette pièce qui est fermée à clé. Avec cette peur des autorités, ils ont eu le maître, maintenant ça va être à notre tour. Et nous avons lu que Jésus se présente aux disciples. Et 8 jours après, il se présente et Thomas est présent. Et pendant toute cette semaine, les autres disciples ne cessent de dire à Thomas, « Nous avons vu le Seigneur. » Quand Jean écrit au verset 25, les autres disciples lui dirent, donc ce n'est pas lui dire une seule fois, mais ils ne cessèrent de lui dire, chaque fois qu'ils étaient ensemble, « Nous avons vu le Seigneur. » Et Thomas est amené à se poser des questions. Oui, il attendait le Messie, il attendait le Sauveur. Il est là, déçu par ce qui vient d'arriver. Ils pensaient que Jésus était le Messie. Et Thomas ne veut pas être déçu une seconde fois. Il a cru très fortement que ce Jésus avec qui il a marché pendant 3 ans, un peu plus de 3 ans, était véritablement le Messie qui était promis dans l'Ancien Testament. Mais voilà que Jésus a été crucifié. Voilà que Jésus a été mis à mort. Pour lui, il ne sera plus là. Il ne sera plus à marcher avec lui. Et en plus, la manière dont Jésus a été mis à mort, la crucifixion, est quelque chose d'horrible. C'était un déshonneur, c'était réservé pour les plus grands malfaiteurs. Comment est-ce qu'un Messie, un Sauveur, peut être mis à mort de cette manière-là? Thomas est en proie à la déception et il ne veut pas simplement accepter le témoignage des autres disciples qui affirment qu'ils ont vu le Seigneur. Même s'ils connaissaient, même s'ils savaient que ces hommes étaient des gens dignes de confiance. Thomas ne veut pas croire leurs paroles. Il veut une démonstration et il demande quelque chose qui va prouver que cette apparition dont les autres affirment être les témoins a un lien réel avec le Jésus qu'il a connu. Thomas a besoin d'une preuve, cinquième mot. Il a besoin d'une preuve qu'il s'agisse bien de la même personne. Et pour faire allusion à son nom qui veut dire jumeau, Thomas ne veut même pas être berné par un jumeau de Jésus. Il précise, pas seulement les marques dans les pieds et les mains comme pour tout crucifié, non, la marque sur le côté, là où il a été percé, là où son côté a été percé, pas seulement les mains et les pieds, mais aussi le côté. Et si ce n'est pas le cas, Thomas affirme, je ne croirai point que Jésus est ressuscité. Thomas veut éliminer toute possibilité d'être trompé. Il est déçu et ne veut pas être déçu une seconde fois. Il demande des preuves. Cela nous amène au deuxième point, la rencontre avec Jésus. Jésus apparaît au milieu du groupe, Thomas étant présent. Il les salue de la même manière, « La paix soit avec vous ». Et de suite, il se tourne vers Thomas. Et il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. » Dans son invitation, dans ce qu'il dit à Thomas, le Seigneur Jésus est en train de montrer qu'il sait exactement les pensées, les demandes de Thomas. Jésus n'a pas besoin d'être présent pour connaître, sixième mot pour les enfants, pour connaître les besoins des siens. Et encore une fois, comme il l'a fait dans toutes ses rencontres, il se révèle comme étant le berger qui prend soin de ses brebis. Il les connaît, il connaît leurs besoins. Et Jésus ne corrige pas Thomas de manière dure, mais il le reprend avec compassion, en lui montrant qu'il sait et qu'il le connaît. Thomas a été un disciple loyal du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la croix. Comme j'ai dit, tout son univers s'est effondré à la mort de Jésus. Thomas ne savait pas ce qu'il devait croire, ce qu'il devait penser. Et Jésus l'invite à le toucher. Je ne suis pas une hallucination, je suis bien réel. Je suis réellement ressuscité. Ne sois pas incrédule, mais crois. Et en disant cela, le Seigneur se révèle à Thomas et Thomas réalise qu'il est en face de son maître. Et nous avons ici la merveilleuse confession de foi, septième mot pour les enfants, de Thomas, verset 28. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Est-ce que Thomas a fait les tests qu'il pensait nécessaires pour croire? Jean ne le dit pas, les commentateurs diffèrent sur ce point. Mais nous savons que lorsque Jésus se révèle à Thomas, lui montre qu'il le connaît, qu'il sait exactement ce qu'il pense, qu'il le reprend avec douceur, Thomas s'exclame « Mon Seigneur et mon Dieu ». Plusieurs points concernant cette confession. Et le premier point, vous le savez peut-être, mais les témoins de Jéhovah ont du mal avec ce verset, puisqu'ils n'acceptent pas que Jésus est Dieu. Et ils proposent de lire ce verset comme étant écrit de surprise. « Mon Seigneur, mon Dieu !» Mais ce serait prendre le nom de Dieu en vain. Ce serait blasphématoire, ce serait un juron. Et Thomas, qui est d'origine juive, pieux, dévoué, ne peut pas prendre le nom de Dieu en vain. Et Jésus n'aurait sûrement pas approuvé ses paroles, comme il le fait au verset 29. « Parce que tu m'as vu, tu as cru. » Et puis il y a le petit mot « et » qui pose problème. Les témoins de Jéhovah le suppriment, tout simplement. Mais il est là. Deuxième point concernant cette confession de foi de Thomas. Thomas, lorsque le Seigneur Jésus-Christ se révèle à lui, est libéré de toutes ces questions. Il sait, qu'il réalise, il prend conscience que Jésus est réellement ressuscité des morts. Ce n'est pas un cri de surprise, huitième mot, pour les enfants. Ça fait une semaine, comme j'ai dit, que les autres disciples ne cessent de lui parler de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont entendu. Cela fait une semaine qu'il doit mettre ensemble le témoignage des autres disciples et ce qu'il sait de l'Ancien Testament. Est-ce qu'ils ont vraiment raison? Est-ce que Jésus est vraiment vivant? Thomas doit se rappeler pendant cette semaine les paroles que Jésus a eues avec eux pendant ce dernier soir qu'ils ont passé ensemble. Quand il leur parlait, nous avons lu en Jean 14, de cette destination qu'il se révèle comme étant le chemin, la vérité et la vie. Et qui allait dire à Philippe, au verset 9, « Celui qui m'a vu, a vu le Père. » Il se rappelle aussi des paroles du Seigneur en Jean 8, 58, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Ou Jean 5, verset 19, « Tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. » Jésus a fait des déclarations pendant son ministère qui révèle sa personne, son identité. Thomas est sans doute amené pendant cette semaine à y repenser à tout cela. Et Jean nous a rappelé que Thomas était un des douze, donc qui a marché avec le Seigneur pendant son ministère terrestre. Et il doit se rappeler tout ce qu'il a entendu de la parole, de la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Il a entendu notamment le Seigneur dire à plusieurs reprises à différentes personnes « Tes péchés te sont pardonnés ». Ces déclarations qui ont suscité bien des réactions de la part des Juifs, qui avec raison disent « Seul Dieu peut pardonner les péchés », mais qui n'acceptaient pas que Jésus soit Dieu. Mais voilà, est-ce que Jésus est vraiment Dieu ? Et Thomas se rappelle les passages de l'Ancien Testament qui parlent du Sauveur, Ésaïe, Jérémie, et d'autres passages qui parlent de celui qui doit venir comme étant le Dieu puissant, Emmanuel, Dieu avec nous. Et même si Thomas ne peut pas expliquer ce que nous appelons aujourd'hui la Trinité, il comprend que si les autres disent vrai, si Jésus est réellement ressuscité, s'il a vaincu la mort et s'il est réellement vivant, cela ne peut être que l'œuvre du Dieu Tout-Puissant. Et donc, quand Jésus se présente devant lui, ce n'est pas une exclamation de surprise, mais c'est un cri de joie. Mon Seigneur et mon Dieu. Les questions de Thomas ont trouvé leur réponse, neuvième mot pour les enfants. Elles ont trouvé leur réponse. Christ est la réponse. Et le troisième point sur cette confession de foi, c'est que Thomas ne dit pas « notre Seigneur », mais « mon Seigneur et mon Dieu ». Il n'est pas en train de réciter une formule, comme beaucoup, par exemple, utilisent le Notre Père aujourd'hui, comme étant simplement une formule à réciter. Non, il fait une confession de foi qui est une confession de foi personnelle. Mon Seigneur et mon Dieu. Et Thomas, qui était déçu, qui ne savait pas de ce qu'il fallait penser et croire au sujet de ce qui venait de passer, maintenant se réjouit de voir son Seigneur, son Sauveur, et il exprime sa foi en Jésus-Christ. Ça nous amène au troisième point, la réponse de Jésus. Verset 29. « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Et ce verset 29 est souvent mal compris. Beaucoup de personnes pensent que Thomas avait une foi de seconde classe parce qu'il demande des preuves, il demande à voir. Mais on doit se poser la question. Quand est-ce que les autres disciples ont cru? Quand ils ont vu. Jean, dans ce même chapitre, au verset 8, nous dit qu'il est allé au tombeau avec Pierre. Et nous lisons ceci. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit, et il crut. Il n'a pas simplement cru le témoignage des femmes qui sont venues leur rapporter ce qu'elles avaient vu. Non, il est allé au tombeau pour voir. Il a vu le tombeau vide. Il a vu les linges. Et il crut. Marie de Magdala, elle a cru quand Jésus s'est révélé à elle. Les disciples sur la route d'Emmaüs ont cru quand ils ont vu le Seigneur Jésus se révéler à eux. Ceux dans la pièce qui était fermée, qui avaient peur des autorités, ils ont cru quand ils ont vu le Seigneur devant eux. Et pour bien comprendre ce verset, en fait, il faut le prendre avec les versets suivants. Versets 30 et 31, Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Il est clair, j'ai oublié de dire que Thomas donc n'est pas différent, dixième mot pour les enfants. Il n'est pas différent des autres. Il a vu et il a cru. Il est clair que l'Évangile nous rappelle que pour avoir la vie éternelle, il faut croire dans le Seigneur Jésus-Christ. Jean 3,16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Thomas croit. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Mais Jésus sait, et Jean le sait aussi, que dans les années, dans les siècles qui vont suivre, beaucoup de personnes seront amenées à croire dans le Seigneur Jésus-Christ sans pouvoir le voir comme Thomas. Jésus va monter au ciel. Et jusqu'à son retour, dans la gloire, il ne sera plus visible comme il l'a été pour ses premiers disciples. Beaucoup vont croire en Jésus sans pouvoir le toucher, sans pouvoir, par exemple, le voir manger du poisson comme les disciples le voient au chapitre suivant, au chapitre 21. Alors sur quelle base toutes ces personnes vont-elles fonder leur foi? Elles ne peuvent pas le faire sur la vue comme les disciples. C'est pour ça que Jésus dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Il ne dit pas plus heureux ou plus béni. Pas une question d'une classe de foi. Mais si nous ne voyons pas, si nous ne pouvons pas voir comme Thomas peut voir, quelles sont les preuves sur lesquelles nous pouvons nous appuyer? Et c'est ce que Jean explique dans les versets 30 à 31. Jésus a fait beaucoup d'autres signes. Il a fait beaucoup d'autres choses. Mais Jean ne les rapporte pas tous. Tout ce qu'il mentionne dans son évangile, y compris cette rencontre avec Thomas. Tout cela est écrit dans un but bien précis, afin que les générations à venir aient les preuves que Jésus est bien le Messie annoncé dans l'Ancien Testament et qu'en croyant en lui, ils aient la vie. Nous avons les témoignages, 11e mot pour les enfants. Nous avons les témoignages de cette première génération de chrétiens que Jésus est ressuscité. Et le témoignage de Thomas fait partie de ces éléments qui attestent que Jésus est ressuscité. Thomas a vu, Thomas a cru. Et par sa confession de foi que nous avons ici, il témoigne encore que Jésus est Dieu, est Seigneur. Il est ressuscité. Et par son témoignage, nous, ceux qui suivent son exemple et qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ, ont la vie éternelle. Ils sont heureux, ils sont bénis, 12e mot. Pour les enfants, leur vie est transformée. Thomas, qui était déçu, qui exigeait des preuves, est devenu un adorateur du Seigneur Jésus-Christ et nous appelle à le suivre. Il est devenu un témoin de la résurrection de Christ, tout comme Pierre va le devenir aussi, et les autres. Et l'Esprit de Dieu a inclus dans les Écritures cette rencontre avec Thomas, cette confession de foi de Thomas. Et nous avons ici un témoin de celui qui est la vérité. Et beaucoup, comme nous ce matin, qui ne voyons pas avec nos yeux physiques le Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons le voir avec les yeux de la foi et être béni. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. La confession de Thomas est une de ces preuves que nous avons et que l'Écriture nous donne pour notre bien. Dans ces rencontres que nous avons vues, Jésus s'est présenté comme étant le berger, 13e mot dans la liste, le berger qui prend soin de ses brebis, qui les appelle à lui, qui répond à leurs besoins. Et cette rencontre avec Thomas, nous pouvons en tirer deux choses. La première, effectivement, il répond aux besoins de Thomas. Ce disciple qui est dévoué, ce disciple qui ne comprend pas et qui demande des preuves, il ne veut pas être déçu une deuxième fois. Et Jésus vient et se révèle à lui. Mais cette rencontre aurait très bien pu se passer la première fois, 8 jours avant. Mais nous n'aurions pas eu ce récit. Ce récit, nous l'avons parce qu'au travers de la confession de foi de Thomas, nous avons ce témoignage personnel que Jésus est Seigneur et Dieu. Bien sûr, il est Seigneur, il est Dieu, même si le monde ne le reconnaît pas. Il dirige toutes choses, il contrôle toutes choses. Mais pour le croyant, pour celui qui est uni à Christ par la foi, il est comme pour Thomas, son Seigneur et son Dieu. Et tous ceux qui ont cru, qui croient aujourd'hui dans le Seigneur Jésus-Christ, sont heureux, sont bénis, parce que Jésus est réellement ressuscité. Il a remporté la victoire sur le péché et sur la mort. Et nous en avons les preuves, nous avons ces témoignages de ces premiers croyants, de ces premiers chrétiens. Paul dit lui-même, dans sa première lettre aux Corinthiens, on fera un résumé et qui reprend aussi les lectures de ce matin. En 1 Corinthiens 15, à partir de verset 3, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et après eux tous, il m'est apparu à moi, comme à l'avorton. » Et il termine au verset 11. « Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. » Nous, à qui Dieu a fait la grâce de croire, comme Thomas, dans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes bénis parce que Jésus a tout accompli. 14e mot pour les enfants. Son œuvre est une œuvre parfaite. Il n'y a absolument rien à rajouter. Le Père a accepté l'œuvre parfaite du Fils. Et il nous a bénis en Christ. Nous avons toute bénédiction, écrira Paul dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 1er, à partir du verset 3. Il dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, en Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Heureux, dit le Seigneur Jésus-Christ, ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus est réellement ressuscité. Nous en avons les preuves. Il est ressuscité selon les Écritures. Et il revient dans la gloire pour chercher les siens selon les Écritures. La parole l'atteste. Nous en avons les preuves. Et donc, comme Thomas est devenu un adorateur du Seigneur Jésus-Christ lorsque le Seigneur s'est révélé à lui et que Thomas s'exclame avec joie, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Que Dieu remplisse nos cœurs de louanges pour un Sauveur si glorieux, si merveilleux que nous avons en Jésus-Christ. Qu'il bénisse encore sa parole à nos cœurs. Amen.